Camille Magnard pour la revue de presse internationale. Bonjour Camille.
Bonjour.
L'État américain de l'Alabama vient de se doter d'une loi qui interdit de facto l'avortement.
Oui, je vous en parlais dès la semaine dernière, mais le vote avait été repoussé au Sénat de l'Alabama parce que la majorité républicaine n'arrivait pas à se mettre d'accord. Non pas sur le principe même de cette criminalisation de l'IVG, mais sur les exceptions qui étaient prévues. Et voilà donc qu'au final, une semaine plus tard, c'est un texte encore plus restrictif qui a été adopté hier soir. La chaîne CBS nous explique que même les femmes qui se sont retrouvées enceintes suite à un viol ou un inceste seront passibles de prison si elles interrompent leur grossesse. Alors bien sûr, il y a eu des voix discordantes. CBS diffuse d'ailleurs pour preuve un extrait de la séance au Sénat d'Alabama.
Representative Collins, relating to abortion, committee amendment pending.
Motion Chambliss, all those in favor say aye. Any opposed? Motion passes. Committee amendment is tabled.
Senator Chambliss. There was no motion. There was no motion.
There was a motion. He made a motion.
He didn't even make a motion, Mr. President.
Voilà, on entend bien les objections jusqu'au moment du vote hier d'un sénateur de l'opposition démocrate. Mais c'était peine perdue. Les républicains étaient largement majoritaires et ils ont eu ce qu'ils voulaient. La seule exception qui a finalement été retenue à 25 voix contre 6, c'est pour les IVG pratiquées en cas de danger immédiat pour la vie de la femme enceinte. Et voilà qui fait dire au New York Times que jamais un État américain n'était allé aussi loin dans la répression de l'avortement. Le texte de loi est à présent entre les mains de la gouverneure d'Alabama, qui est elle aussi issue du Parti républicain et qui ne cache pas son opposition à l'IVG. Il est donc probable qu'elle va ratifier la loi, laquelle sera immédiatement contestée devant la justice fédérale et in fine ce sera à la Cour suprême américaine de trancher. Or, c'est exactement cela que veulent les pourfendeurs du droit à l'avortement. Pour le Washington Post, qu'on ne s'y trompe pas, l'amendement voté hier soir n'a que peu à voir avec l'Alabama et beaucoup, par contre, à voir avec la Cour suprême. Le but ultime des anti-IVG, ce n'est pas de voir leur loi appliquée à court terme. D'ailleurs, elle ne le sera pas puisqu'elle va donc être contestée en justice. Non, l'objectif véritable, c'est de donner à la Cour suprême une occasion de remettre en cause l'arrêt Roe contre Wade qui, depuis 1973, fait office de jurisprudence connaissant le droit des femmes américaines à l'avortement. À lire le site d'info BuzzFeed, on comprend d'ailleurs que les autres lois criminalisant l'IVG prises ces derniers mois dans plusieurs autres États américains font en fait partie d'une campagne concertée menée par les pro-life pour porter l'affaire devant la plus haute juridiction fédérale. C'est Politico qui nous le rappelle. Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump a nommé deux juges connus pour leur position conservatrice et les anti-IVG y voient une occasion unique de faire basculer la loi américaine en leur faveur. Encore faudra-t-il pour cela que la Cour suprême accepte de se saisir de ce dossier ultra sensible. The Washington Examiner nous rappelle que par 13 fois ces dernières semaines, les juges ont échoué à se mettre d'accord pour trancher sur une loi votée dans l'Indiana en 2016, une loi qui déjà imposait de sévères restrictions au droit à l'avortement.
On va rester dans le monde médical en tentant de savoir ce que cache la diplomatie de la blouse blanche. Elle est pratiquée par Cuba.
Oui, pour ça, on lira l'enquête publiée par l'OTAN en Suisse, enquête qui se fait écho au dépôt hier d'une plainte d'ONG contre l'État cubain, plainte devant la Cour pénale internationale de La Haye pour rien de moins que crime contre l'humanité pour des faits d'esclavagisme. On y évoque les milliers de médecins cubains forcés à participer à des missions de coopération à l'étranger au bénéfice du gouvernement de la Havane et dans des conditions, nous dit-on, qui en feraient de véritables esclaves. L'OTAN nous apprend que ces missions de médecins, principalement en Amérique du Sud et en Afrique, se sont multipliées ces 20 dernières années, au point de devenir à la fois un outil essentiel de la diplomatie cubaine, mais aussi le principal revenu de l'île. Les blouses blanches envoyées pour exercer dans des pays amis rapporteraient jusqu'à 9 milliards d'euros les bonnes années au régime communiste. On compte en ce moment 50 000 médecins déployés dans une soixantaine de pays et ce que reprochent les plaignants à l'État cubain, c'est de confisquer entre 70 et 90% de leur salaire, sans parler du contrôle incessant auquel ces médecins sont soumis. Le régime a tellement peur qu'ils désertent une fois à l'étranger, qu'ils sont sans cesse surveillés, couvre-feu imposé, contact limité au maximum avec les habitants du pays, impossibilité de partir avec sa famille et pour ceux qui décident tout de même de déserter, et ils sont nombreux, interdiction de revenir à Cuba pendant 8 ans sous peine d'être emprisonné. Voilà donc pour l'enfer du décor de cette médecine sans frontières qui a toujours fait la fierté de Cuba. Et pour confirmation, eh bien on lira sur le site de la BBC les témoignages de Daily et de Carlos, deux jeunes médecins envoyés au Venezuela, un pays qui paye ses services médicaux en nature en livrant du pétrole à la Havane.
Et puis des nouvelles enfin de l'Algérie. On en parle moins ces dernières semaines. semaine, mais la mobilisation populaire n'a pas dit son dernier mot.
Oui, c'est ce que nous dit la une d'El Watan aujourd'hui. Photo des manifestations d'hier à l'appui. Les étudiants ne lâchent pas prise. Ça, c'est le titre. Car hier, donc, ce sont les jeunes Algériens qui ont à nouveau apporté leur énergie à la contestation contre l'armée qui continue d'accaparer le pouvoir depuis la chute du clan Bouteflika. Les étudiants montent en puissance, renchérit tout sur l'Algérie, qui note qu'il s'agit là du 12e mardi de mobilisation consécutive sur les campus de tout le pays. L'influence et la détermination que l'on a pu voir dans les cortèges impressionne d'autant plus, note TSA, qu'il s'agit des deuxièmes grandes manifestations depuis le début du mois du Ramadan. Les militaires espéraient sans doute que cette période de privation saperait la détermination du mouvement, mais c'est raté pour le moment. Alors hier, nous dit encore le HuffPost Maghreb, les étudiants, par leur détermination sans faille, ont encore réussi à faire reculer les forces de l'ordre dans le centre d'Alger. La revendication, eh bien, c'est la même que l'on lit depuis février sur les banderoles, le départ des voleurs et des traîtres, la mise en place d'un pouvoir démocratique civil. S'y ajoute désormais le rejet de l'élection présidentielle prévue en Algérie pour le 4 juillet. En tout cas, tant que c'est un gouvernement à la solde de l'ancien régime, disent les manifestants, qui se chargera d'organiser cette élection.